Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue aujourd'hui. Le musée ambulant lance sa tournée dans les provinces atlantiques.
On achète des œuvres à des artistes professionnels, travaille dans toutes sortes de médiums. On prend ces œuvres-là et on les amène un peu partout, directement là où les gens sont.
La prestigieuse revue B-Side renaît de ses cendres et fait honneur à la Basse-Côte-Nord.
Tu sais, je parle de la construction de mon chalet, mais c'est un peu accessoire finalement à ce que j'ai envie qu'il ressorte du texte, là, qui est un peu sur apprivoiser des nouveaux lieux, décider de s'implanter quelque part qui est pas familier. Tu sais,
L'Université francophone de Saint-Boniface, pépinière de futurs enseignants.
L'Université Saint-Boniface produit plus d'étudiants quantitatifs que par les années passées. Donc, ils ont augmenté le nombre d'étudiants dans leur cohorte. En ville, on s'en sort bien, mais au niveau rural, c'est plus complexe.
Le Nouveau-Brunswick injecte 13 millions de dollars dans son programme de déjeuner scolaire.
Chaque école a des infrastructures différentes. Nous autres, on travaille avec les écoles sur le terrain pour que chaque élève peut commencer leur jour et avoir cette opportunité d'avoir les meilleurs résultats.
Et Statistique Canada révèle que les parents en mode solo se sentent seuls. Comment rompre avec cet état d'être? On cherche des solutions à Toronto.
Les parents célibataires peuvent ressentir davantage une pression intense pour compenser l'absence de l'autre parent. On demande régulièrement au gouvernement qu'il mette en place des politiques de soutien ciblées.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Salut à tous et à toutes et bienvenue encore à Point de vue. Merci d'être là. Boris Chassagne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Nos journalistes de l'IJL vont se joindre à moi et nous parler d'art plastique, d'art de vivre et de la rentrée scolaire. On ouvre le bal en Basse-Côte-Nord où un essai de Samuel Bellefleur consacré à la transhumance et à la survie des pêcheurs dans cette région, plus précisément à Tête-à-la-Baleine, figure dans le prestigieux magazine indépendant québécois B-Side. Ce numéro de la revue est le tout premier publié après une longue pause de plusieurs années. En décembre 2023, la revue avait dû déclarer faillite et interrompre ses éditions papier. Eh bien, contre toute attente, elle renaît aujourd'hui avec l'ambition de publier deux numéros par année. Et pour ce retour, le thème qu'elle a choisi n'est pas anodin, la résilience. Pour Samuel Bellefleur, voir son travail publié dans la revue B-Side est la réalisation d'un rêve qu'il caressait depuis ses études en environnement. La revue y publie d'ailleurs de magnifiques photos de Tête-à-la-Baleine et de son chalet en construction. Samuel en profite pour parler longuement donc de l'histoire et des traditions de la région. Il partage aussi le lien profond qu'il entretient avec le territoire et le geste d'aller s'établir sur une terre nouvelle. Là, il faut apprendre racine, tranquillement. Du village de Tête-à-la-Baleine, voici ce que Marie-Ève Dussablon nous a préparé.
Mon nom, c'est Samuel Bellefleur. Puis je parle de mon article dans la dernière édition du magazine B-Side. Prendre racine dans le mouvement à Tête-à-la-Baleine.
Ce texte sur la transhumance et la survie des pêcheurs en Basse-Côte-Nord, plus précisément à Tête-à-la-Baleine, se retrouve dans le prestigieux magazine indépendant québécois B-Side, le tout premier après sa longue pause. En raison de difficultés financières incluant une faillite annoncée en décembre 2023, la revue B-Side avait interrompu ses éditions papier. Mais c'est avec grande surprise qu'elle est de retour avec ses deux numéros par année. Pour son tout premier, le thème choisi n'est pas pris au hasard, la résilience. Cette force qui nous aide à nous relever, à réimaginer et à construire un avenir. Un rêve pour Samuel Bellefleur qui, depuis ses études en environnement, désirait se retrouver un jour dans cette revue.
J'avais découvert cette revue-là quand j'étais à l'université. Dans mon milieu d'études, c'était une revue que les gens appréciaient parce que ça parle, dans le fond, des façons d'habiter le territoire B-Side. Puis, en fait, j'étais particulièrement dans une branche de l'environnement qui était la gestion des territoires, de la biodiversité. Puis en plus, c'est un peu une revue de photos à la base.
Oui, c'est une très belle revue.
Oui, c'est des vraiment belles photos par des photographes professionnels que tu vois là-dedans. Fait que moi, d'emblée, je pense que j'avais comme envie d'éventuellement un jour avoir peut-être des photos là-dedans, même si à ce moment-là, je pense que je faisais pas de photos autant que j'en fais aujourd'hui, ou en tout cas, pas avec l'ambition que j'ai aujourd'hui, mais c'est ça, j'avais comme cet intérêt-là depuis le début, puis ça, c'était il y a peut-être 7-8 ans. Là.
Okay.
Puis tu sais, ça peut avoir l'air un peu anodin, là, parce que ben, là, beaucoup de gens le connaissent même pas, le magazine, puis c'est toujours bien juste un article là, de quelques pages, là, mais j'avoue que moi, j'étais quand même très, très fier de ça.
Dans cet essai parsemé de magnifiques photos de tête à la baleine, du large et de son chalet en construction, Samuel nous raconte l'histoire et les traditions du lieu. Il partage aussi son lien profond avec le territoire et le geste d'aller s'établir sur une terre nouvelle, là où il faut apprendre à prendre racine, tranquillement. Un texte universel qui nous invite à mieux comprendre la région, mais aussi notre propre rapport à l'habitation d'un lieu.
C'est un peu un passage obligatoire là, de décrire Tête à baleine, parce que je pense pour les gens qui lisent cette revue-là, probablement la majorité ne sauront pas c'est quoi. Là. Ben c'est ça. Puis, mais tu sais, je parle de la construction de mon chalet, mais c'est un peu accessoire à ce que j'ai envie qu'il ressorte du texte, là, qui est un peu sur apprivoiser des nouveaux lieux, décider de s'implanter quelque part qui est pas familier, tu sais, adopter des coutumes locales. Puis je pense que, tu sais, ils m'ont demandé d'écrire un texte qui était universel, tu sais, des réflexions universelles. Moi, au début, quand je les ai contactés, je leur avais parlé du village, je leur disais, tu sais, je pense qu'il y a plein de belles choses à raconter par rapport à comment les gens utilisent le territoire, l'habitent. Puis, tu sais, accessoirement, j'avais parlé du fait que je me faisais une maison, puis c'était un gars que je connaissais là, qui m'avait recontacté, puis il me disait, moi, je vois vraiment comme quelque chose dans tout ça, tu sais, il était comme, si tu peux faire un texte qui recoupe tout ça ensemble, ça serait probablement le mieux. Fait que c'est pour ça que j'étais arrivé avec cette idée-là de parler de ma perspective en tant que nouvel arrivant à Tête à Baleine, puis comment, mettons, mon regard un peu d'étranger a fini par changer au fil des années, puis comment j'en suis venu à décider de me construire une maison sur les îles.
Les valeurs uniques propres à la région sont aussi véhiculées. Samuel décrit le partage, la générosité des gens de la place et l'ingéniosité.
Quand tu décides de t'installer quelque part, la meilleure façon de t'intégrer, c'est d'apprivoiser les savoir-faire, les façons de faire, le mode de vie, tu sais. Puis à Tête à la baleine, ben ça s'avère être tout ça, là, d'être capable d'aller scier ton bois, de faire du bateau, puis etc. Fait que tu sais, c'est pour ça que je te dis, ça peut. Quelqu'un pourrait se reconnaître à Montréal, quelqu'un qui a dû apprendre à utiliser le métro, puis assis, puis ça. Puis je pense que ça revient à dire que pour vraiment t'imprégner d'un lieu, il faut que tu apprennes à apprivoiser ses particularités, puis que tu embrasses un peu la culture, finalement. Je pense que je trouvais ça cool de l'utiliser dans un contexte aussi flyé, tu sais, que Tête à la baleine, mais que finalement, c'est un peu vrai pour n'importe où. Là.
Le déclin de la population depuis le moratoire sur la pêche à la morue en 1992 sur la Basse-Côte-Nord demeure un élément marquant de la résilience de la région. Un portrait qui pourra en effrayer certains, mais pas Samuel.
On peut toujours essayer de voir comme le pire, puis voir s'imaginer le pire, puis penser que ok, ça va finir, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu sais, au final, pourquoi, tu sais, on peut décider de pas s'empêcher quand même de faire des choses malgré ce genre d'incertitude-là. Puis je pense que dans mon texte, que ce que j'essaie de... Ben, mon hypothèse, on va dire, là, c'est par rapport à ce qui fait que ici, tu sais, les gens sont capables de continuer de s'installer malgré cette incertitude-là. Ben, c'est en partie un peu à cause de l'héritage culturel que les gens ont, du fait que c'est relativement instable comme lieu, entre autres à cause de la nature de l'environnement, du climat, c'est très hostile avec les vents puis tout ça. Puis je pense que ça finit par développer chez les gens une résilience par rapport à ce qui dure puis ce qui dure pas.
Un projet documentaire est également en cours pour suivre Samuel dans la construction de son chalet avec Raphaël Inslee-Vincent, qui fait aussi partie du projet. Dans ce numéro 16 de la revue B-Side, un autre récit sur la rivière romaine de Gabriel Rondeau est également à lire. Une Basse-Côte bien représentée sous ce thème de la résilience. Ici Marie-Ève Dusablon pour l'IGL, à tête à la balaise.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Eh bien, on reste près de l'eau et on se rend dans l'est du pays pour rattraper sur la route un petit musée d'art nomade. C'est le musée ambulant, basé au Québec, qui entame cet automne une tournée de 3 provinces atlantiques. Le musée qui va s'arrêter dans une vingtaine de communautés francophones de l'île du Prince-Édouard, des quatre coins de la Nouvelle-Écosse et de l'ouest de Terre-Neuve. Le musée qui déclare qu'on ne le visite pas, on l'invite au lieu. Le musée ambulant qui accepte toutes les propositions raisonnables afin d'amener l'art vers ses publics et milieux de vie. Écoles, résidences pour aînés, lieux publics, tous les prétextes sont bons. Le musée ambulant qui s'est arrêté donc à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, au début du mois de septembre pour y exposer une dizaine d'œuvres d'artistes canadiens tirées de sa collection. Elle était présentée dans la grande salle du canton culturel. Daniel Aucoin a rencontré la co-directrice du musée ambulant, Sarah Bélanger-Martel.
Nous, on promène des œuvres de notre collection d'œuvres d'art. On achète des œuvres à des artistes professionnels de toutes sortes, qui travaillent dans toutes sortes de médiums. On prend ces œuvres-là et on les amène un peu partout avec l'idée de rendre l'art plus accessible. Donc, en amenant les œuvres directement là où les gens sont et en proposant ces découvertes-là avec des ateliers de création. On va se promener dans 3 provinces, sur 3 mois. On va voir probablement plus de 3000 personnes. Donc, pour nous, même si ça fait quand même quelques années qu'on se promène, c'est vraiment la plus grande tournée qu'on a jamais montée et on est très excités de la commencer à Chéticamp.
Comment important que c'est pour le musée ambulant de contribuer à l'offre culturelle en français dans les milieux linguistiques minoritaires comme Chéticamp?
Ben nous, ça fait partie de notre mission aussi d'aller d'abord vers des publics qui, pour toutes sortes de raisons, peuvent vivre certaines barrières dans l'accès à la culture dans leur langue. Donc, on visite beaucoup, nous, des communautés linguistiques minoritaires, que ce soit à l'extérieur du Québec en français, parfois au Québec en anglais. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant d'aller se promener dans la francophonie canadienne, d'aller découvrir des communautés francophones ailleurs, des communautés acadiennes, c'est l'échange qui se passe. Alors, c'est vraiment pas seulement que nous, on amène des œuvres, qu'on fait des activités en français, mais aussi, c'est nous, on va découvrir toute la richesse, la diversité de la culture qui se vit en français ailleurs au Canada. Donc, je dirais que c'est vraiment à double sens, là, ces échanges-là. Quand on va quelque part, on découvre tout ce qui se fait. On a été vraiment surprise quand on a fait une première visite à Chéticamp, là, au début de l'été pour préparer la grande tournée. On a vu toute la tradition du tapis au quai qui nous a vraiment impressionnés. Et puis là, on a décidé justement de faire un partenariat avec le musée des Trois Pignons pour pouvoir emprunter une œuvre qui va se promener avec nous, un magnifique tapis au quai de Chéticamp qui va se promener avec nous dans la tournée. Donc c'est pour nous une façon de découvrir l'art qui se fait aussi partout à travers le pays.
Alors votre tournée dans les régions, ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes?
Oui, d'abord, on s'est dit on va aller voir les plus jeunes en se promenant dans les écoles. Donc, on va faire la tournée de beaucoup d'écoles là, dans les 3 prochains mois, surtout des écoles francophones un petit peu partout. Mais on a toujours, on espère toujours pouvoir ouvrir ça au reste de la population. Donc, à chaque endroit qu'on va visiter, il y aura une soirée communautaire, un moment ouvert aux parents, aux amis, aux gens de tous âges, en fait, pour venir voir l'exposition qu'on installe dans les murs de l'école ou à proximité. Puis, vraiment, tout le monde est invité. Je crois que l'art, c'est vraiment pour les petits comme les grands.
Alors, les gens, pendant la tournée, les gens peuvent suivre les aventures du musée ambulant dans l'Atlantique sur vos médias sociaux?
Absolument, oui. On aime beaucoup mettre des images de la tournée, des images autant des activités que des paysages, des communautés qu'on va croiser. Donc, les gens qui ont Instagram ou Facebook peuvent nous suivre en stories. Souvent, on va ajouter des images de la tournée. Et c'est là aussi qu'on va placer toutes les dates, en fait, des événements publics. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir nous voir, venir participer aux événements, pour tout savoir, ce sera sur notre page Facebook.
Alors, Sarah Bélanger-Martel, je rappelle que tu es co-directrice générale du Musée ambulant qui entreprend comme ça une tournée d'environ 3 mois dans les provinces de l'Atlantique. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Bonne tournée. Au plaisir de vous voir de nouveau à Chéticamp.
Merci. À bientôt.
Ici Daniel Aucoin pour IGL à Chéticamp.
passe en vitesse du côté du Nouveau-Brunswick où la première ministre de la province, Susan Holt, annonce le déploiement d'un programme de petits déjeuners scolaires. Ceci juste à temps pour la rentrée, les 296 établissements primaires et secondaires de la province vont dès à présent pouvoir en bénéficier. Madame Holt en a fait l'annonce dans la circonscription de Miramichi-Ouest alors qu'une certaine confusion entourait le projet. La première ministre en a profité pour détailler le programme et son étendue. Les gouvernements fédéral et provincial vont y injecter 13 millions de dollars. Vincent Lavoie à Miramichi au Nouveau-Brunswick.
La première ministre Susan Holt s'est déplacée à l'école secondaire du centre du Nouveau-Brunswick pour donner les grandes lignes de son programme de déjeuner scolaire. Le programme est élargi à l'ensemble des établissements de la province, doublant ainsi presque la portée du programme. Le tout est rendu possible grâce à un partenariat de 13 millions de dollars, où la contribution du gouvernement provincial s'élève à 2 millions de dollars, contre 11 millions pour le gouvernement fédéral. L'organisme Nourrir NB est chargé de placer puis livrer les commandes effectuées par les écoles. Les premières livraisons devraient avoir lieu la semaine prochaine.
Chaque école a des infrastructures différentes. Nous autres, on travaille avec les écoles sur le terrain pour que chaque élève puisse commencer leur jour et avoir cette opportunité d'avoir les meilleurs résultats.
Toutefois, les défis persistent.
This year, we're working with the schools to close the gaps of infrastructure. Some schools need more investment in fridges.
Le gouvernement s'affaire à combler les lacunes structurelles auprès des écoles pour rendre le programme plus efficace.
We want to make sure that we get it right because we originally were modeling after PEI.
La province s'appuyait sur le modèle de l'île du Prince-Édouard qui a récemment révisé son programme de déjeuner.
We're learning from Nova Scotia that rolled out a pay what you can program.
La province s'appuie également sur le modèle de la Nouvelle-Écosse et sa formule payez ce que vous pouvez.
Maximizes the participation of the community organizations that are on the ground, delivering and supporting school lunch programs right now.
Le programme Néo-Brunswickois vise à maximiser l'utilisation de produits locaux en partenariat avec des organismes présents sur place. Le gouvernement espère d'ailleurs que ces ajustements permettront un déploiement plus efficace l'année prochaine. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Miramichi.
Bonjour, ici Sébastien Caron à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
On se dirige maintenant vers le Manitoba où des centaines de nouveaux étudiants vont pour la première fois tester les bancs des classes de l'Université de Saint-Boniface, là où les cours ont repris le 2 septembre dernier. Pas moins de 290 étudiants étrangers ont intégré les classes de ce seul établissement universitaire francophone du Manitoba et parmi eux, une quarantaine d'étudiants fraîchement arrivés au pays. Durant la toute première semaine, ces étudiants ont participé aux diverses activités d'intégration organisées autour du thème « Prends racine », ceci alors que planent des menaces de grève de la part des professeurs et du personnel. La reprise des négociations entre les gestionnaires de l'université et les associations syndicales vont quand même bon train. L'Université de Saint-Boniface, sur laquelle le réseau scolaire compte pour former les enseignants francophones de la province, mais l'université n'est pas encore en mesure de répondre à tous les besoins, y compris aux siens. James Olivier à Winnipeg, au Manitoba, en discute avec le directeur général de la division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge.
Le problème de pénurie, je dirais que chez nous, il est atténué par le fait que l'Université Saint-Boniface produit plus d'étudiants candidats que par les années passées. Donc, ils ont augmenté le nombre d'étudiants dans leur cohorte. Ça fait un plus grand nombre. Je dirais qu'en ville, c'est pas un problème d'aller chercher des enseignantes et des enseignants. Sauf si on commence à parler des enseignants spécialisés, comme des enseignants de musique francophone, qui vont travailler parfois à temps partiel parce qu'il y a pas assez de pourcentage dans une école, même avec 500 élèves, pour avoir un prof à temps plein. Ben, ce que ça fait, c'est que c'est moins entrayant comme tâche. Un petit peu la même chose pour la gymnastique, les arts. Et je dirais qu'en ville, on s'en sort bien. Mais au niveau rural, c'est plus complexe parce que, bon, il y a la distance. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, bien, allez par exemple, à Gabriel-Leroy, ça va quand même assez bien, c'est près de la ville. Mais si je dis Saint-Pierre, Saint-Lazare, Thompson, ben, il n'y a pas d'autres écoles autour. Et souvent, les gens, surtout les nouveaux arrivants, ils veulent avoir un travail pour leur femme ou leur mari. En même temps, ils veulent pas avoir simplement un salaire. Alors, où est-ce qu'il y a le plus d'emplois? C'est à Winnipeg. Brandon, comment c'est assez gros. Alors, cette pénurie-là est un peu artificielle dans le sens que la ville, on se débrouille assez bien. Mais en rural, c'est plus compliqué. Alors, on doit souvent faire appel à nos stagiaires, On essaie d'avoir des stagiaires dans chacune de nos écoles. On va aussi après l'Université Saint-Boniface, qui est un grand, je dirais, une grande aide pour nous. Mais on va à Ottawa, on fait des démarches à Ottawa, à Moncton, on fait des démarches à la Laurentienne pour aller voir s'il y a des candidats ou des candidates qui sont disponibles pour venir à Winnipeg.
Avis donc aux intéressés. Merci à James Olivier à Winnipeg. Et pour conclure, on revient sur nos pas pour s'arrêter au centre du pays où Annette Minka à Toronto nous apprend qu'être le seul parent à avoir la charge des enfants pèse lourd sur la vie affective et psychologique de ces derniers. Elle cite à ce propos une étude de Statistique Canada qui rapporte que les parents seuls seraient en tête des personnes déclarant des symptômes d'anxiété ou même de dépression. La charge mentale, la pression financière et l'isolement social seraient notamment en cause. Alors, comment y faire face, en atténuer les effets? La psychothérapie, des politiques de soutien communautaire ciblées, voire même des applications de rencontres comme LoveNest peuvent offrir des pistes de solutions. La commission santé-mentale.ca pointe déjà vers un certain nombre de ressources à disposition des parents concernés. Annette Minka nous a ramené ce qui suit.
Alors que l'été s'achève et que les températures chutent, beaucoup de Canadiens auront tendance à se replier chez eux. Un phénomène d'hibernation sociale qui, pour certains, peut accentuer la solitude et conduire à l'anxiété ou à la dépression saisonnière. Une réalité encore plus marquée chez les parents célibataires qui représentent aujourd'hui près d'un quart des familles au Canada. Selon Statistique Canada, ces familles monoparentales sont plus susceptibles que les autres de déclarer souffrir d'anxiété et de dépression. Un constat appuyé par Louis Moubarak, gestionnaire principal à la Commission de la santé mentale du Canada, qui, au-delà du changement de température, cite plusieurs raisons menant à l'isolement des parents célibataires.
Le stress financier étant la première indication. Le taux de pauvreté est plus élevé, malheureusement, ce qui entraîne un stress constant lié à la sécurité financière, au logement et à l'accès à la nourriture. Donc, ce qui est vraiment essentiel à la survie d'une personne. Donc, l'isolement social, donc les contraintes de temps, le manque de ressources et l'absence de groupe social peuvent mener à l'isolement et réduisant ainsi le soutien social qui est aussi essentiel à remonter troubles qu'on peut rencontrer. Et le soutien social est un facteur protecteur essentiel. Après ça, il y a la conciliation travail-vie personnelle. Donc, gérer seul les responsabilités de l'emploi, les soins des enfants, les tâches ménagères, les rendez-vous personnels. Donc, tout ça est une source d'épuisement physique et mental pour les parents célibataires.
Parmi les autres facteurs aggravants, la psychothérapeute Sandra Sassa en relève un autre bien présent dans le quotidien des parents solo francophones.
La langue en soi peut être un problème. Elle vient avec son français, elle vient avec sa langue maternelle, mais la réalité de l'environnement ne lui permet pas de l'étranger.
À cela s'ajoute la stigmatisation autour de la monoparentalité, un autre défi majeur selon Louis Moubarak.
Les parents célibataires peuvent ressentir davantage une pression intense pour compenser l'absence de l'autre parent. Donc, ce qui alimente un sentiment de culpabilité et un perfectionnisme qui peuvent tous les deux nuire à leur bien-être en général.
Mais malgré ces obstacles, il existe des solutions.
Nous, on demande régulièrement au gouvernement, que ce soit fédéral ou ontarien dans ce cas-là, pour qu'ils mettent en place des politiques de soutien ciblées. Donc, par exemple, des mesures pour l'accès à un logement abordable, des services de garde subventionnés et des congés familiaux payés. Ce qu'on fait aussi, c'est développer et diffuser des trousses d'outils et des guides de pratiques exemplaires pour les parents célibataires et les professionnels de la santé aussi, pour qu'ils comprennent ce que vivent les parents célibataires. Donc, ces ressources pourraient être vraiment adaptées aux défis spécifiques de chaque population. Il suffit d'aller sur le site web commissionsantementale.ca et aller par mots-clés Recherchez des mots-clés et là, vous allez trouver beaucoup de ressources.
La Commission de la santé mentale du Canada propose également un service de clavardage confidentiel en ligne, mais aussi des programmes en milieu scolaire comme Tête Haute, qui soutient les enfants issus de familles monoparentales. De son côté, Sandra Sassa accompagne de nombreuses mamans solo, en majorité des femmes d'origine africaine, à travers un suivi psychothérapeutique.
On commence d'abord par l'individu. L'individu, essayer de voir quelles sont ses pensées négatives, d'où elles viennent, en utilisant la thérapie cognitivo-comportementale, où on vise vraiment la pensée négative. Donc, on travaille d'abord sur le niveau émotionnel de façon individuelle.
Et pour elle, l'accompagnement communautaire est tout aussi essentiel.
Puis maintenant, nous allons au niveau communautaire. Qu'est-ce que la communauté offre? Quelles sont les ressources qu'elle peut avoir accès? Peut-être si c'est une dame qui voudrait retourner à l'école, on peut le diriger vers le collège, on peut le diriger. Vraiment, c'est un plan taillé par rapport aux besoins et à sa vision en tant qu'individu, premièrement.
Créer des liens, partager des moments, éviter l'isolement. C'est aussi l'objectif de Love Nest, une nouvelle application de rencontres destinée aux parents célibataires. Son fondateur, le français Joanny Saint-Pourré, en explique le principe.
L'idée m'est venue de créer l'application pour justement rompre avec cette mouvance de virtuel. On va mettre en place une application où les parents peuvent certes s'écrire, mais pourront échanger des attentions pour concrétiser vraiment la relation. Je parle avec quelqu'un, je peux lui envoyer des fleurs, je peux lui envoyer du thé, pour vraiment montrer qu'il y a, j'existe dans la réalité. Et par la suite, on va aussi proposer des ateliers, des événements pour permettre aux gens de se rencontrer toujours dans la réalité. Et puis, toujours dans l'objectif de reconstruire les pots cassés, on va leur permettre d'évoluer après les ruptures. On aura par exemple des ateliers pour s'exercer à l'expression orale, au théâtre, à la peinture. Vraiment réapprendre à cultiver des passions.
Plus qu'une simple application de rencontre, Love Nest veut créer une véritable communauté, des événements, des activités, pour dépasser la stigmatisation et recréer du lien social.
Il y a une certaine culpabilisation du parent célibataire qu'on veut justement effacer. Et ça, c'est un de nos défis. Et justement, ça, on va essayer de répondre à ce défi-là avec les parents célibataires et les personnes qui aussi sont prêtes à ouvrir des relations avec enfants sont bien sûr les bienvenus dans cette aventure-là.
Autant d'initiatives pour aider les parents solos à sortir de leur isolement et à retrouver un réseau de soutien. C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Et bien voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci aussi à nos journalistes que sont Daniel Aucoin, Marie-Ève Dussablon, Annette Minka, Vincent Lavoie et James Olivier. Nos rédacteurs nationaux sont Julien Chénu et moi-même, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire, l'initiative de journalisme local et votre radio, oui, celle que vous écoutez. Merci encore d'avoir été là. Prenez soin de vous et des autres si possible. Et à la semaine prochaine. Ciao!
écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.